Stéphane Lederizon, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Vous venez tout juste de participer à une conférence organisée par Catherine Chabot. Et vous avez donc présenté le fond même de ce qu'est Time for Oceans. Est-ce qu'on pourrait commencer par là?
Eh bien oui, avec plaisir. En fait, Time for Oceans, c'est un message que je porte, qui est le lien avec mon engagement dans le développement durable et ma passion de navigateur. Puisque en tant que navigateur, j'ai pu constater un certain nombre de dérèglements dont on parle, mais moi j'en ai été témoin directement. Je parle de la fonte des glaces, je parle des pollutions maritimes diverses et variées, de la prolifération de certaines algues, etc. Et j'ai eu envie de porter un message, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et le message, en fait, Time for Oceans, c'est un message qui dit que la transition vers le développement durable, c'est l'affaire de tous. Et on aura des résultats que si chacun prend sa part, les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. C'est-à-dire qu'individuellement, on soit aussi prêt à faire des petits gestes.
Concernant le vent des globes, concernant le constat des routes qu'on pouvait prendre, il y a sur place, on peut constater un certain nombre de choses sur les dérèglements.
Oui, tout à fait. En fait, pour donner quelques exemples, effectivement, sur mon Vendée Globe 2016, j'ai été particulièrement sensible à la parcours des glaces, à la dérive. Hein. Je me suis amusé, si j'ose dire, en arrivant à prendre cette carte de la cartographie des glaces telles qu'elles étaient lors du Vendée Globe 2016 et de superposer dessus le tracé de la route de Titouan-Lamazou, vainqueur du Vendée Globe en 89. Et puis là, j'ai été pris d'une grande tristesse quand je me suis rendu compte que sa route ne passe plus aujourd'hui. Il s'est écoulé 25 ans et Titouan-Lamazou aujourd'hui, il aurait réédité l'histoire du Titanic.
Dans le même style de constat direct sur l'eau, vous avez évoqué lors de la route de Rome 2014, alors que vous étiez en classe 40 à l'époque, les sargasses, les problèmes des algues.
Alors oui, tout à fait. Ces algues brunes qui, lorsqu'elles se décomposent, produisent des gaz nauséabonds et même toxiques. En fait, qui sont des algues naturelles. Mais le problème, c'est qu'avec les rejets, notamment de nitrates et de phosphates et l'augmentation de la température de la mer, elles prolifèrent et elles s'agrègent sous forme de bancs qui font presque la taille d'îles. Et elles sont en quantité tellement incroyable qu'elles étouffent la vie en mer. Alors je parlais tout à l'heure effectivement de ma Rome du Rhum 2014 où en arrivant j'étais obligé de les contourner puisque quand je ne les voyais pas, notamment la nuit, ça allait jusqu'à stopper la progression de mon navire dont je perdais le contrôle. On parle de bancs de plusieurs centaines de mètres et jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Donc il y a un véritable sujet.
Alors vous constatez évidemment sur l'eau, mais ce que vous dites aussi c'est que cette pollution nous concerne nous aussi modestes terriens.
Elle nous concerne d'abord nous, terriens. C'est tout le message de Time for Ocean. Le Time for, c'est la notion de « il est temps d'agir ». Et l'océan, en fait, c'est évidemment le lien entre la course, l'élément nautique et le développement durable. Puisque si on regarde de près les océans, on se rend compte qu'ils sont à la source de tous les équilibres de la planète. Équilibre climatologique, absorption du CO2, biodiversité, etc. Or, d'où viennent les pollutions ? Eh bien, de la Terre. Donc si on veut protéger l'océan, c'est bel et bien à terre qu'il faut agir, et notamment sur la limitation de tous les polluants qui inlassablement se retrouveront dans la mer.
Bon, alors soyons clairs, vous n'êtes pas directement quelqu'un issu de la mer, vous êtes très lié à Boulogne-Billancourt, et vous allez nous dire justement quels sont les liens avec ce lieu. Il y a un événement qui a été important, c'est le sommet mondial qui a eu lieu là-bas, et puis vous y avez travaillé aussi.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis breton de naissance et j'y ai grandi à Lorient et boulonnais d'adoption. Donc je suis attaché à cette ville qui est une ville dynamique, moderne, qui s'est engagée à mes côtés depuis 8 ans. Et c'est une ville qui est engagée également dans le développement durable et qui est un peu à l'origine à mes côtés du Time for Ocean. Et pourquoi ? Parce qu'en 2017, en décembre 2017, la ville de Boulogne-Billancourt accueille le One Planet Summit, donc ce sommet sur le climat international où les grands décideurs de ce monde essayent de prendre des bonnes décisions pour préserver la Terre. Et j'ai été interpellé par des discours, notamment celui de John Kerry et de Jean-Louis Chaussade. Et ce discours disait quoi ? En fait, la transition vers le développement durable, c'est l'affaire de tous. Il faut vraiment que chacun en prenne sa part. Et ça a été pour moi un déclic. J'avais envie de faire quelque chose pour les océans. J'avais une dynamique dans cet engagement et je me suis dit, voilà, j'ai désormais le message. Je vais profiter de l'exposition médiatique des grandes courses océaniques auxquelles je participe pour tenter de sensibiliser le public grâce à des petits défis, à des capsules vidéo et autres actions, à des gestes simples, gratuits, peu engageant finalement, mais finalement de s'interroger, que chacun puisse s'interroger sur les petits gestes qui pourraient apporter au quotidien un petit plus pour la préservation de notre planète.
Alors vous avez cité aussi d'autres partenaires sur cette action Time for Oceans, qu'on n'attend pas forcément comme Suez ou Bouygues. Expliquez-nous en quoi ces entreprises s'impliquent aussi à vos côtés.
Alors effectivement, j'ai trois partenaires. On peut revenir sur Boulogne-Billancourt qui a reçu un prix pour le plus grand éco-quartier de France, 74 hectares quand même en 2014. Et puis il y a Suez, en fait Suez qui est très impliqué dans l'économie circulaire, la gestion des ressources, le recyclage et qui a aussi créé une fondation Suez for Ocean pour collecter les matières plastiques avant qu'elles soient rejetées à la mer. Et puis Bouygues Construction est un acteur engagé dans le développement durable qui a mis en place une politique ambitieuse sur les rejets de CO2, sur l'utilisation des matériaux naturels avec une gestion de la ressource raisonnée, sur la fabrication de bâtiments à faible émission énergétique et la gestion des déchets sur les chantiers. Et c'est parce que ces acteurs étaient engagés que je suis allé les voir en leur proposant qu'on fasse équipe pour porter ce message, l'amplifier, multiplier nos actions et puis tenter de fédérer d'autres entreprises, d'autres villes, pourquoi pas, d'autres régions et surtout le public pour qu'ensemble, on apporte notre contribution à la préservation de l'océan.
Professionnellement, vous avez commencé avec le bureau Veritas. Ça vous plaisait pas la façon dont ils travaillaient directement? Vous avez cherché à insuffler de nouvelles lignes un peu en lien avec ce que vous faites aujourd'hui?
Alors oui, effectivement, je travaillais chez Bureau Veritas, mais non, j'étais heureux de ce que j'y faisais. À l'origine, je travaillais dans l'architecture des navires, et simplement cette conviction, cette appétence vers le développement durable m'a conduit en interne à créer en fait le département des énergies marines renouvelables et d'apporter ma pierre à l'édifice pour que cette entreprise se tourne vers ces énergies de demain et insuffler cette transition au sein de ce groupe. Donc ça a bien fonctionné de 2010 à 2015. Et puis ensuite, j'ai décidé de revêtir que la casquette de navigateur professionnel.
Alors là, on va y venir. On est à Saint-Malo, bientôt le départ. On va partir un peu sur la course. Une des dernières importantes expériences que vous avez eues en navigation a été un peu compliquée avec le vent des globes. Vous êtes retrouvé à Melbourne bien malgré vous. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé à ce moment-là.
Alors j'ai été effectivement sur le Vendée Globe 2016, donc le Vendée Globe, tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance. C'est un défi hors norme, quand en tant que marin on se lance sur ce défi-là, c'est vraiment un défi tout à fait extrême. Et la voile est un sport mécanique, et quand on prend le départ de cette course, on est sûr que d'une seule chose, c'est de se mettre au défi. Et en tant que marin solitaire, il faut faire face, quoi qu'il arrive. Et j'ai été gâté puisque j'ai dématé suite à une défaillance matérielle dans le sud de la Tasmanie, enfin un mi-chemin presque entre la Tasmanie et l'Antarctique, donc aux antipodes, dans des mers tout à fait hostiles, avec un morceau d'humain qui a commencé à découper ma coque et dans une zone où je ne pouvais pas avoir d'assistance. Donc en tant que compétiteur, effectivement, j'avais pas atteint le but des Sables d'Olonne, mais en tant que navigateur, j'avais le plaisir intense d'avoir fait face à cette situation. Ouais. Et d'être rentré par mes propres moyens à Melbourne, où j'ai pu ramener le bateau et pour poursuivre l'aventure pour le Vendée Globe 2020.
Donc une énorme expérience humaine, en fait, malgré la trahison de la technique et la technologie. En parlant de technologie, votre bateau, finalement, il a été celui qui va partir, là. Il a été fini, ric-rac, finalement. J'ai cru comprendre qu'un mât avait été installé tout à fait récemment, en fait.
Alors le gréement, en fait, on l'a installé au printemps, donc ça nous donne quand même pas mal de recul sur la fiabilité des pièces. C'est un mât tout neuf, ainsi que tout le gréement, les voiles, puisque j'avais perdu tout ça lors du dématage. Là où en fait le projet s'est un petit peu précipité, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que la signature de l'engagement avec les partenaires s'est faite il y a un mois. Et donc pour être prêt à être au départ de la route du Rhum en portant ce message, un bateau aux couleurs et avec les derniers préparatifs au point, ben forcément il y a eu une course contre la montre au mois d'octobre.
Et là vous êtes fin prêt, il y a les petits réglages, qu'est-ce qui reste encore à faire d'important là sur le bateau? C'est au point?
Et ben là, je suis très content de l'équipe. Ils ont vraiment beaucoup travaillé. On a tiré toutes les leçons des préparations sur les courses précédentes et on a mis le coup de collier avant. Et donc là, on arrive ensemble avec l'équipe serein puisque le bateau est prêt. Et donc voilà, l'activité du jour, c'est plutôt de laver l'intérieur. Donc quand on en est là, c'est qu'on est prêt à partir.
Alors, cet IMOCA Team for Oceans donc, est un bateau sans foil. Est-ce que c'est aujourd'hui un inconvénient? On dit que ceux qui sont équipés de foilers vont être plus rapides s'ils passent, quoi.
Alors clairement, aujourd'hui, on sait que les bateaux à foil vont plus vite. En 2016, on savait déjà qu'ils allaient plus vite, mais il y avait un doute sur la fiabilité. En 2018, on sait que non seulement ils vont plus vite, mais que ce sont des systèmes fiabilisés. Donc ça veut dire que bah, y a un handicap hein, de ce point de vue-là, mais c'est quelque chose que j'accepte en tant que compétiteur, parce que c'est-à-dire quand on prend le départ d'une course, finalement la course elle a commencé avant. Et pour cette course-là, bah, j'ai pas eu le temps matériel d'équiper mon bateau de foil, mais j'ai pas dit mon dernier mot pour la suite. Et en tant que compétiteur, bah, je suis très attaché à faire évoluer ce bateau et arriver au départ des prochaines courses dans les meilleures conditions possibles.
Donc le challenge, c'est quoi pour vous à partir du départ dimanche?
Eh ben le challenge déjà, dès qu'on prend le départ d'une course, c'est de la finir, parce que pour parler de bon classement, il faut déjà être classé. Et la route du Rhum, c'est une épreuve difficile. C'est pour ça qu'on vient tous, je pense, s'y frotter, avec un départ qui s'annonce musclé. Donc eh ben il va falloir.
Vous dites départ musclé, les nouvelles météos sont moins mauvaises que ce qu'on pensait ou pas là?
Moi, ce que je vois, c'est assez conforme à ce qu'on imagine depuis quelques jours. C'est-à-dire, au moment du départ, c'est pas forcément mauvais. Mais il y a une dépression qu'il faudra négocier vraisemblablement le lundi, ou peut-être dans la nuit de lundi à mardi, qui s'annonce un petit peu corsée.
Donc, il faut aller le plus vite possible pour passer la dépression, c'est ça?
Eh ben oui, je pense qu'il y aura une première course contre la montre, c'est de se dépêcher. Et là, presque en oubliant la notion de classement, mais pour plutôt éviter un phénomène météorologique majeur.
Est-ce que vous pensez en gros que la course va jouer finalement ce premier jour?
Je pense que la course va pas se jouer entièrement ce premier jour, mais qu'il y aura déjà des groupes qui vont se constituer et qui sera bien difficile pour ceux qui auront pris un peu de retard et qui prendront le plus gros du vent de revenir dans le match.
Et donc dans la classe IMOCA finalement, par rapport aux concurrents que vous avez, donc on a les 4 ou 5, je sais plus, 4 bateaux je crois, équipés de foil, donc qui les 10, voilà, ouais. Donc qui eux ont évidemment quelques avantages. Vous pensez donc, vous visez quoi? Rentrer dans les 10 premiers ou aller au plus près du premier?
Alors moi dans mon approche en course au large, puisqu'on ne peut pas avoir de marquage directement sur un adversaire comme pourrait le faire en sport collectif notamment, je me concentre toujours sur ma performance et moi ce qui m'obsède c'est de livrer la meilleure performance possible avec les meilleures trajectoires et les meilleures vitesses possibles avec mon bateau et de faire les comptes à l'arrivée. Et en général quand on a rempli sa mission et qu'on a fait avancer vite le bateau sur la bonne route, ça se passe bien au classement.
Voilà, ben on vous remercie en tout cas d'avoir consacré quelques instants pour notre antenne. Et puis on vous souhaite en tout cas surtout pas la même mésaventure que lors du Vendée Globe et d'arriver, parce que vous portez finalement de belles couleurs avec Time Oceans. Merci à vous Stéphane Ladiraison.